Alors, je voudrais vous demander ce matin si vous avez encore du courage de m'écouter, puisqu'on a dit qu'on devait être courageux. Et non seulement si vous avez du courage, mais est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Alors ça tombe bien, parce que le Seigneur ce matin nous dit « Viens dans mes fleuves d'eau vive ». Amen. Et nous allons voir ensemble ce que sont les fleuves d'eau vive. Mais avant d'aller comme ça sur le domaine spirituel, on va se rappeler ensemble ce que l'eau représente pour nous déjà de manière terrestre. Et il est bon de se rappeler que sans eau, il ne peut y avoir aucune vie sur Terre. L'eau est un élément indispensable, c'est une condition sine qua non de notre vie sur Terre. L'eau est un élément indispensable pour l'homme. On sait que quand il fait très chaud, souvent il y a des alertes qui sont données aux informations pour les personnes âgées de bien s'hydrater, de bien boire, parce qu'on a peur qu'il y ait finalement des décès importants en raison de la déshydratation. L'eau est un élément indispensable pour la végétation, pour les arbres, les fleurs, toute la végétation, pour les animaux marins. L'eau est utilisée également comme source d'énergie quand des barrages sont formés pour qu'il y ait l'électricité qui marche. L'eau est utilisée pour nettoyer nos maisons, pour nous laver ce matin. J'espère que vous êtes bien lavés, que vous sentez bon. L'eau est aussi utilisée comme une arme quand il y a des combats, quand il y a des grèves, etc. On voit les forces de l'ordre qui vont utiliser les canons d'eau là, pour faire reculer la foule. Et l'eau est aussi pour nous, et peut être aussi pour nous, une source de quiétude. On aime bien aller à la plage, au bord de la mer. On aime aller en montagne, auprès des lacs, se rafraîchir. Et ça peut être vraiment des lieux de paix, des lieux où on va se ressourcer. C'est toujours intéressant de voir combien, en fait, on voit des gens comme ça, la foule, aller comme ça près des courants d'eau et se promener près des courants d'eau. Et vous savez, pour ma part, mon papa est décédé au mois d'octobre, et que le vendredi, on lui a dit au revoir et qu'on faisait nos adieux à notre papa, j'ai retrouvé Claude par derrière et il m'attendait dans la voiture avec les enfants. Il m'a serré fort dans ses bras et j'ai dit à Claude, si tu savais, je voudrais que tu m'emmènes très loin. Très très loin d'ici, je voulais partir en fait de la France, partir je ne sais où. Mais je disais, emmène-moi au bord de l'eau, emmène-moi sur une barque. Et je me voyais comme ça en fait, être sur cette barque, vous savez, allongée avec juste les rayons du soleil qui viennent taper sur votre corps et ça vous fait du bien, ça vous donne de la douceur. Et vous êtes là, vous entendez juste l'eau en fait taper comme ça sur la barque et vous êtes bien. Et face à la brutalité de ce qu'on avait vécu, face à la mort, face au brisement qu'on ressentait, à la douleur, je souhaitais qu'une chose, être auprès de l'eau, être sur cette barque. Alors Claude, qui est très pragmatique, il me dira, tu sais Élise, peu importe là où je t'emmènerai, tu partiras avec ta douleur, tu iras avec ton deuil. Il avait raison, mais ce cœur, ce désir, en fait, c'est vraiment les premières paroles que j'ai dit à Claude, c'est « je voudrais que tu m'emmènes loin ». Et ce matin, tu es peut-être comme moi, pour différentes raisons, eh bien, tu voudrais aller auprès de ces courants d'eau. Tu voudrais, comme moi, monter sur cette barque et sentir les doux rayons du soleil et être sur cette barque et entendre l'eau taper sur ta barque et être bien. Juste avoir un temps où tu respires à nouveau. Juste avoir ce temps où tu reprends des forces. Avoir ce temps où tes forces sont renouvelées. Avoir ce temps où tu peux te reposer, toi qui es fatigué. Et alors que nous évoquons l'eau sur le plan de l'âme et du corps, eh bien, la parole de Dieu dans la vie spirituelle, l'eau est également un élément indispensable à notre vie. Et nous allons voir ensemble ce qu'est l'eau, en fait, dans notre vie chrétienne. Ce que représente l'eau pour notre vie spirituelle. Et tout d'abord, eh bien, j'aimerais nous dire ce matin que l'eau nous purifie. Tout comme l'eau vient nettoyer notre corps, quand on se lave, vient nettoyer nos maisons, eh bien l'eau de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous écoutons la parole, l'eau vient nettoyer nos cœurs de nos péchés, vient nettoyer notre conscience. La parole de Dieu nous aide et nous guide à mettre nos vies en conformité avec Christ. Éphésiens 5, chapitre 5, pardon, versets 25 à 27, il est dit donc que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans rides, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous pouvons être saints et irréprochables par l'eau de la parole de Dieu qui va nous aider, qui va nous laver, qui va nous purifier. Amen. L'eau également nous permet dans notre vie chrétienne, eh bien, de recevoir le Saint-Esprit, d'être renouvelé et d'être fortifié. Dans Tite, au chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit que Dieu nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prenons notre bain dans la présence de Dieu afin, quand nous acceptons le Seigneur, quand nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous prenons notre baptême, eh bien, nous faisons un acte de foi où nous sommes plongés dans l'eau, c'est-à-dire nous sommes morts avec Christ et ensuite nous sommes relevés parce que nous sommes ressuscités avec Christ et nous recevons le bain, nous recevons la nouvelle naissance au travers du Saint-Esprit et nous sommes régénérés jour après jour dans ce bain que Dieu nous donne gratuitement au travers de Christ crucifié à la croix pour chacun d'entre nous. Pas grâce à nos œuvres, pas grâce à qui je suis, à mes forces, à ce que je suis de super bien. Non, non, non. Mais grâce à Christ crucifié sur la croix, alors nous avons accès à cette eau gratuite qui nous lave de tout péché, qui nous donne une vie nouvelle en lui. Amen. Et l'eau est associée pleinement, dans Jean 7, verset 14, est associée pleinement à la vie éternelle, à cette vie qui jaillira, cette vie éternelle qui jaillira jusque dans l'éternité. Jean 7, verset, chapitre 7, verset 14. C'est pas ça. En fait, dans Jean 7, chapitre 7, verset 14, normalement, il dit « Celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La vie que nous recevons ici-bas, la vie avec le Saint-Esprit, va nous emporter jusque dans la vie éternelle. Amen. Et dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5, il nous est parlé de la vie de Dieu, de quand nous serons dans la présence de Dieu. Il nous est dit, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Quand on parle des fleuves d'eau vive dans l'Apocalypse, quand on dit qu'un fleuve coule du trône de Dieu, c'est la vie de Dieu. Nous serons pleinement. Aujourd'hui, nous avons et nous connaissons partiellement, mais un jour nous connaîtrons pleinement, à visage découvert, face à face, face à Dieu. Nous serons éternellement dans la plénitude de Dieu. Amen. Et nous verrons avec notre pleine identité le nom que nous devons porter. La lumière, on n'aura plus besoin de lumière, d'éclairage. La présence seule de Dieu suffira à éclairer la multitude. Amen. nous recevons le Saint-Esprit comme des fleuves d'eau vive dans nos vies. Et nous pouvons nous abreuver auprès de Dieu qui est cette source de vie éternelle. Amen. David dira aussi au psaume 23, versets 1 à 3, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. L'Éternel nous dirige près de lui. » Et un jour, il nous ramènera au bercail, il nous ramènera dans la maison céleste, dans cette vie éternelle. Amen. Jésus s'annoncera aussi comme le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, auprès des eaux paisibles, lorsque nous suivons l'eau, lorsque nous suivons le courant de Dieu, eh bien nous suivons un chemin. Nous suivons un chemin avec le Seigneur. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et combien d'entre nous, dans la présence de Dieu, alors que nous nous mettons à prier, soit dans notre lieu secret, soit collectivement en tant qu'Église, lorsque nous nous mettons à adorer Dieu individuellement chez nous, ou en famille, ou à l'Église, lorsque nous mettons à jeûner et à prier individuellement ou ensemble, collectivement, combien d'entre nous recevons des directions pour l'Église, pour nous-mêmes, pour les autres, les paroles prophétiques? C'est gratuitement, grâce à l'eau qui coule. Et alors Dieu, il nous donne des directions. Dieu, il donne des directions et il vient abreuver son peuple. Et il vient encore nous abreuver ce matin. Amen. Et il est important de nous dire que cette eau, nous pouvons l'avoir pour nous collectivement ce matin, mais aussi quand nous sommes chez nous et en famille. Amen. Ou quand tu es seul dans le lieu secret. L'eau, quand on voit qu'il est, que c'est le chemin qui nous mène vers Dieu, quand on voit que Dieu lui-même est celui qui nous abreuve, quand nous savons que l'eau nous purifie et nous lave de tout péché, quand nous savons que l'eau vient nous régénérer, vient renouveler nos forces, eh bien l'eau, les fleuves d'eau vive, viennent déjouer les traits enflammés du malin. Amen. Combien de fois l'ennemi veut nous attirer vers le bas? Combien de fois l'ennemi veut nous laisser dans les deuils, dans les afflictions et nous dire « Regarde, là tu es seul, là tu es éprouvé, regarde là tes circonstances, rien ne bouge, rien ne change. » Mais ce matin, l'Éternel nous dit « Je suis là, je suis avec toi et je suis ces courants d'eau vive pour ton âme, pour ton esprit et je t'amène au bord de mes fleuves et je te fais rentrer dans mes fleuves d'eau vive afin que tu puisses être restauré, afin que tu puisses être renouvelé, afin que tu puisses être guéri, afin que tu puisses prendre encore du courage ce matin. Amen. Les fleuves de Dieu sont partout. Comme Alex le disait l'autre fois, il faut plus se rendre dans un lieu précis pour aller adorer Dieu et pour recevoir ces fleuves d'eau vive. C'est partout, dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, nous pouvons recevoir ces fleuves d'eau vive. Si tu peux afficher la première photo que je t'ai donnée. Et là, cette photo, en fait, on s'est retrouvés dernièrement à Genève et en montagne. Claude, il a quand même exaucé mon vœu de m'emmener auprès d'un lac. Et nous sommes allés donc à Genève et dans les montagnes. Et à Genève, on a en fait ce magnifique jet d'eau. Et ce magnifique jet d'eau, c'est 1300 chevaux au niveau du moteur qui pousse et qui pulvérise l'eau, en fait, et qui fait sortir l'eau. Et ça procure, ça va venir jeter comme ça hors du lac, ça vient jeter 7 tonnes d'eau en l'air. Donc c'est magnifique. Hein. Donc on s'y est approché à la fois par la digue et aussi en bateau. Et quand je me suis approchée de ça, j'étais déjà en train de méditer en fait sur le thème que Dieu m'avait donné. Et je ne pouvais cesser d'adorer Dieu et de dire à Dieu, là, c'est un jet d'eau humain. D'accord, c'est 1300 chevaux qui poussent l'eau, qui poussent 7 tonnes d'eau en dehors du lac, et je disais à Dieu, mais je crois profondément que tes fleuves d'eau vive sont plus puissants que 1300 chevaux, sont plus puissants que 7 tonnes d'eau qui sortent d'un lac. Amen. C'est plus puissant que ça. Et ce matin, je te dis, crois, crois et aie la foi que mes fleuves d'eau vive sont plus puissants que n'importe quel fleuve qui a été créé humainement. Ça a été créé humainement. On a mis une machine en route qui vient faire sortir l'eau. Amen. Et au bord de ce lac, donc à Genève, il y a un quartier, je trouvais ça vraiment rigolo, et pour moi c'est des clins d'œil de Dieu, qui s'appelle le quartier des eaux vives. C'est pas mal, hein, si tu peux mettre la deuxième photo. Et j'ai pris en photo, et là il y a un arrêt, c'est le parc des eaux vives. Et j'aimerais nous dire que dans notre vie chrétienne, eh bien on a un parc d'eau vives, on a des jets d'eau puissants, qui sont redoutables, qu'aucun appareil de mesure ne peut mesurer, aucun appareil d'homme ne peut mesurer la puissance de Dieu, ne peut mesurer la puissance dans les fleuves d'eau vives de Dieu, et non seulement, eh bien, c'est ici, mais c'est chez toi, c'est en famille, avec tes enfants, c'est dans toutes les réunions, c'est dans, dès lors que tu t'approches de Dieu, tu as accès à ces fleuves. Amen. Mais en réfléchissant à ce message, je dis, ok, en fait, là, tout ce que je dis, c'est génial. C'est canon, je suis sûre que vous avez envie là qu'on reprenne un temps de louange et qu'on y aille, qu'on rentre encore dans la présence de Dieu. On a envie d'être visité, on a envie de vivre cette puissance, mais aussi parfois cette douceur du Saint-Esprit. Amen. Mais entrer dans les fleuves d'eau vive va nécessiter forcément un renoncement de notre part. Il y a des renoncements, et des renoncements qui vont nous coûter plus ou moins un certain prix à payer. Et alors que je te parle ce matin et que tu es attiré à entrer dans ces fleuves d'eau vive, eh bien l'Éternel te demande de renoncer à ton propre regard sur tes faiblesses. Sur tes faiblesses peut-être physiques ou sur tes faiblesses psychiques. On aime tous se présenter comme des Wonder Woman, comme des Superman, et on a tous tendance à cacher nos faiblesses. Plus on pourra cacher nos infirmités, plus on pourra cacher nos faiblesses, mieux on se porte. Mais le Seigneur, et parfois aussi nos faiblesses physiques et psychiques, nous donnent comme un coup d'arrêt. D'un coup, quand on a une infirmité, quand on est malade, quand on est gravement malade, quand le psyché, en fait, est venu être est brisé au travers des épreuves de la vie, je sais qu'au milieu de nous, certains ont connu des guerres, et quand vous parlez avec ceux qui ont connu les guerres, ils vous disent, mais moi, mon cerveau a emmagasiné des images, mais insupportables. Certains d'entre nous, on a pu vivre des abus d'autorité, des abus en tout genre. Peut-être que tu as vécu des épreuves et tu as des images qui sont venues marquer ton psyché. Des images de voir les personnes autour de toi qui s'affaiblissent, où le corps s'affaiblit. Tu vois ton corps t'affaiblir et t'en reviens pas, en fait, que tu es dans cet état-là. Peut-être tu as une infirmité de naissance. Peut-être tu as un handicap de naissance. Peut-être que toi, c'est il y a des choses, c'est tu es plus fragile à la fatigue, tu es plus fragile à la pression, plus fragile dans certaines émotions, dans ce que tu vas éprouver. Et moi-même, vous savez, une des dernières épreuves, c'est vraiment le décès de mon papa. Je suis marquée d'images, en fait, que d'odeurs même dans les hôpitaux. Et dernièrement, j'ai dû aller à l'hôpital pour Ruben, il avait une infection. Et juste entendre le bruit de certaines machines, mais j'aurais pu littéralement péter un câble. Ça me prenait viscéralement. Et je disais, mais pourquoi je suis avec Ruben à l'hôpital? Les odeurs, le bruit, tout était trop pour moi, en fait. Mais j'ai survécu. Et il y a des choses comme ça. Mon père sur son lit de mort avec les tuyaux, avec le matériel médical. Mais c'est d'une atrocité et d'une brutalité. Et j'en parle ce matin parce que je sais que je suis pas la seule. Moi, j'ai ces images-là, mais toi, tu as tes images. Tu as tes images qui sont venues atteindre ton psyché. Tu as tes douleurs qui sont venues atteindre ton psyché, ton psychique. Tu as tes odeurs, des choses que tu ne supportes plus à cause de ton vécu. Des lieux peut-être que tu ne supportes plus à cause de ton vécu. Mais l'Éternel est là. Et dans nos faiblesses, eh bien, comme l'apôtre Paul, nous voulons tous le ministère de l'apôtre Paul. On veut tous ses miracles, on veut tous ses prodiges, on veut tous être cet apôtre qui va faire naître des églises. Et l'apôtre Paul, eh bien, il va prêcher l'évangile avec succès, il va parler de la croix, il va annoncer le Saint-Esprit, les prodiges et les miracles vont l'accompagner, il va en parler dans la bonne santé, mais il va en parler aussi dans l'infirmité. Dans l'infirmité. Et la parole de Dieu nous dit aux Galates que, il dira aux Galates, si vous aviez pu vous arracher un œil et me le donner. Alors on ne sait pas exactement quelle était l'infirmité de Paul, mais on sait, en fait, il y a des petits indices comme ça qui nous disent, en fait, qu'il avait une infection aux yeux, mais une grosse infection. Certains théologiens disent que c'était une infection purulente qui n'était pas beau à voir. Il dira même aux Galates, finalement, vous m'avez reçu dignement, vous m'avez accepté, alors qu'en fait, vous auriez pu avoir honte de moi physiquement par rapport à mon état. Et parfois, on n'est pas beau à voir, on n'est pas Superman ou Superwoman. Alors, Paul dira de Corinthiens 12, versets 7 à 10. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de l'excellence des révélations que Dieu lui a données, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand Dieu nous dit « ma grâce te suffit », c'est pas « débrouille-toi », c'est dans toutes tes faiblesses, dans toutes tes détresses, dans toutes tes angoisses, dans toutes les insultes que tu vis. C'est ma toute puissante grâce est suffisante pour toi pour continuer à être qui tu es en moi, à être l'homme ou la femme que je t'ai appelé à être celle que je t'ai destinée. Je t'ai destinée à des projets, je t'ai destinée à des œuvres. Et dans ta faiblesse corporelle, eh bien moi je fais entrer mes fleuves d'eau vive et alors tu peux encore me servir. Tu peux encore me servir. Tu peux encore faire des œuvres pour moi et des œuvres surnaturelles. Et quand l'église de Galate a été formée, Paul était en plein cœur de son infirmité. Il y a même un titre d'un livre, c'est dit, eh bien finalement que l'église est née dans sa chambre, comme dans une chambre d'hôpital, dans sa chambre d'infirmité. Est-ce que tu crois ce matin qu'au milieu de tes faiblesses, qu'au milieu de tes afflictions, qu'au milieu de la détresse, Dieu, eh bien, peut encore t'utiliser? Dieu te dit, ma grâce est toute suffisante pour toi, pour que tu puisses encore marcher. Jour après jour, marcher. Jour après jour, le servir. Jour après jour, venir encore te conformer à la parole de Dieu. Amen. Mais il nous faut accepter parfois nos faiblesses, aussi difficiles et lourdes soient-elles, et accepter de dire dans ces faiblesses-là, je vais servir l'Éternel et je vais renoncer à mes propres limites, à mon propre regard sur moi-même. Amen. Entrer dans les fleuves d'eau vive nécessite également de renoncer aux pensées qui te disent que toi, t'es le chrétien de seconde zone. Toi, c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur et je veux vraiment décortiquer certaines pensées. C'est parfois, vous rentrez dans l'église et vous passez votre temps à regarder l'autre, votre prochain. Et parfois, vous êtes même à idolâtrer une personne que vous aimez bien, que vous trouvez bien dans le Seigneur. Vous regardez comment il lève les mains, comment elle est habillée, comment il est habillé, comment elle fait, comment il parle. C'est bien de prendre des exemples, mais à un moment donné, Dieu te dit, hey, moi je suis là. Et parfois, c'est juste ton attention. Tu regardes à gauche, à droite. Alors, il arrive à quelle heure? Et lui, elle est assise où? Et elle est assise où? Et lui, il est comme ça. Et elle est comme ça. Ah, puis lui, il a tel caractère. Ah, puis ça. C'est vrai, on est comme ça. Puis parfois, il y a des choses qui viennent nous irriter comme ça entre nous. Puis pendant ce temps-là, les fleuves passent. Et ça passe. et on se concentre sur les uns, sur les autres. Et parfois, notre concentration et notre force est mise sur les uns et sur les autres plutôt que de se concentrer sur ce que Dieu veut faire ce matin-là, ce jour-là. Et parfois, tu te sens chrétien de son zone à cause de ton vécu, peut-être à cause de ton paraître, parce que tu n'es pas, eh bien, comme toutes les, comme le standard de ce monde. Il faut être comme si cette beauté-là. Alors, tu es mal dans ton corps. Tu dis, moi, je suis pas aussi belle ou aussi beau qu'un tel. Et tout ça, eh bien, ça te freine. Ça te freine à rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas. Parce que toutes ces pensées, eh bien, elles viennent se nicher en toi et tu n'arrives plus à te concentrer dans la présence de Dieu. Peut-être aussi que tu te sens comme un étranger. Tu te sens comme un étranger. Tu es peut-être là depuis des années, mais le fait que Dieu te dise « tu es ma fille, tu es mon fils », c'est un truc qui est... Tu as toujours du mal. Ça t'échappe. Je dis, comment est-ce possible que je puisse, moi, être la fille de Dieu? Comment est-ce possible que je puisse être le fils de Dieu? Peut-être que tu découvres la foi et que ça te paraît complètement dingue que tu puisses être appelée fille ou fils de Dieu, de l'Éternel, du Dieu vivant. Parce que tu passes ton temps à calquer la relation que tu as eue avec tes parents, peut-être avec tes frères, avec des amis, à la calquer sur Dieu, à la relation que tu pourras avoir entre Dieu et toi. Alors tu restes dans ton entendement, tu restes avec tes pensées, tu restes avec ton vécu. Et peut-être que tu te dis, mais comment se fait-il, et je vais le faire ce matin, que ce Dieu si grand là, est-ce que c'est possible qu'il puisse me voir au milieu de la foule? Et j'aimerais nous dire ce matin que de la dernière rangée jusqu'à cette rangée-là, Dieu te voit et Dieu te connaît. Dans cette rangée-là, Dieu te voit du bout, tu es assis au bout, et Dieu te voit ici, ceux qui sont assis au premier rang. Dieu te voit au bout, et Dieu te voit ici, assis au premier rang. Et même vous, jeunes gens, mes neveux et nièces, Dieu connaît votre cœur au plus profond. Dieu connaît ton cœur, toi qui es au bout de la salle, et Dieu connaît ton cœur, toi qui es là. Et ça, ce que je fais ce matin, c'est une invitation de la part de Dieu. Que tu sois tout au bout de l'église. Ou que tu sois juste ici au premier rang. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tout de ta vie. Il connaît le moindre détail. Il sait qui tu es quand tu es né, qui tu as eu pour parents, tes frères et sœurs, ton vécu, tes douleurs, tes joies, tes faiblesses, les trucs où tu t'en sors pas, les trucs où tu réussis. Il sait tout de toi. Il sait les moindres douleurs. Il sait les moindres forces que tu as. Tout ce que tu es, qui tu es, chacun individuellement. Il connaît nos prénoms. Il nous voyait dans le sein de notre maman. Amen. Et ça, c'est l'invitation de Dieu ce matin. En disant, oui, je suis ce grand Dieu. Je suis souverain sur toutes les nations. Je connais toutes les nations, les rois, les présidents, tout le monde. Mais je te connais toi aussi individuellement ce matin. Je te connais. Et ce matin, je te dis, viens dans mes fleuves d'eau vive. Viens dans mes fleuves d'eau vive. Parce que je t'appelle par ton nom. Parce que je sais qui tu es. Je sais encore ce que je ferai de toi. Amen. Alors ce matin, tu n'es pas un chrétien de seconde zone. Tu n'es pas un chrétien de seconde zone. Tu es le fils et tu es la fille de l'Éternel. Amen. Peut-être aussi que ce matin, ça te demande de la confiance d'aller dans les fleuves d'eau vive. Ta relation avec Dieu, fils et fille, pour toi, c'est OK. Je me sens bien dans mes pompes, tout va bien, mais je suis plutôt de nature prudente. J'ai quand même du mal, moi, à faire confiance. Peut-être que tu es comme ça. Et dans nos pas, nos premiers pas avec le Seigneur, c'est comme les enfants qui apprennent à marcher. Et puis on est là, hop. Mais le papa, notre Père Céleste, il dit, come on, viens, 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 viens dans mes fleuves d'eau vive. Et comme la parole d'Ézéchiel qui sera donnée à Ézéchiel, au début tu fais les premières 500 coudées, l'eau t'arrive aux chevilles. Et après, l'eau monte encore et ça t'arrive aux genoux. Et alors, parmi nous, il y a ceux qui aiment bien nager en eau profonde. Moi, j'aime bien mettre la tête sous l'eau et aller profond. Il y a ceux qui détestent nager dès qu'ils perdent pied. Dès qu'ils ont plus pied, là, ça déménage. C'est ouh, qu'est-ce que je fais là? On a de l'angoisse, on se demande ce qui va se passer. Un jour, ma fille Julia, alors qu'on était en vacances, elle voulait aller dans la piscine. Elle savait qu'elle allait avoir une piscine. Alors, elle était super contente. Et peut-être que toi, t'es comme ça. On parle des fleuves de vie, t'es super content. Puis d'un coup, elle s'approche de la piscine. Claude rentre dans la piscine. Il s'amuse à aller sous l'eau. Et là, pour Julia, c'est panique à bord. Elle se dit, où est mon père? Où est-il passé? Elle ne supportait pas nous voir dans l'eau tellement elle avait peur. Elle avait peur d'y entrer. Et elle avait peur que nous entrions dans l'eau. Peut-être que ce matin, tu as peur pour toi-même et tu as peur aussi pour les autres. En disant, mais qu'est-ce qui va se passer si je mets un pied après l'autre dans l'eau? Et si l'eau va jusqu'aux chevilles? Et si l'eau va jusqu'aux genoux? Et si d'un coup, ça monte jusque-là au cou? Que va-t-il se passer? Et je ne sais pas vous, mais moi, je me rends compte que parfois, on fait naturellement plus confiance à l'homme qu'à Dieu. On prend un avion, on se retrouve dans les airs, à je ne sais combien de mètres d'altitude. Merci. À je ne sais combien de mètres d'altitude. Et finalement, est-ce qu'on a demandé le curriculum vitae du pilote d'avion? Pourtant, il y a un certain nombre de passagers quand même dans l'avion. Et pourtant, on ne lui a pas demandé de nous dire « Alors, c'est quoi tes réussites ?» T'as fait quoi de beau pour que je puisse monter dans l'avion? On était en montagne, tu prends la télécabine, tu prends un télésiège, tu vois la corde, tu mets ta vigne dedans, hop, tu t'assois, tu vois la télécabine, tu montes et tu dis, bah, ça tient qu'à une corde là, hein. Il y a un système de sécurité, mais. Et j'ai fait une petite expérience comme ça quand on était donc à Genève, on est parti dans les montagnes quelques jours. Et j'ai skié il y a une vingtaine d'années. Et c'est mon cadeau, c'était un cadeau en fait pour mon anniversaire. Donc Claude nous avait emmené à la fois au bord du lac et en montagne. Et j'ai pris, et Claude me dit, vas-y, c'est notre dernière journée là de ski. Prends un télésiège et va et monte. Et fais un peu une petite piste. Donc moi, je me dis, bah j'y vais. J'avais repris un peu confiance sur mes skis. Et puis, en fait, je demande aux gens de la télécabine, au personnel, au télésiège, en disant, est-ce que si je monte, ça va, il y a une piste verte, bleue? On me dit, oui, c'est bon, il y a une piste bleue. Je dis, OK, très bien. Et puis, donc, il me dit, c'est bon, vous pouvez monter. Donc, il me dit, demandez bien là-haut comment vous devez redescendre et quelle piste vous devez prendre, etc. Parce que finalement, c'était un grand domaine. Et donc, je prends le télésiège, je m'installe, je mets bien mes petits skis sur le repose-ski, là. Et puis, en fait, ça monte, et ça monte, et ça monte encore. Et je ne savais pas, en fait, que ça allait m'emmener si haut. Et quand je suis arrivée là-haut, j'étais en plein brouillard. Mais en plein brouillard, je ne voyais rien devant moi. Et là, j'étais là, je me dis, Élise, tu aurais bien mieux fait de rester jouer avec les enfants en bas de piste, parce que là, tu vas devoir assurer, ma vieille. Tu vas devoir assurer, je voyais rien. Alors je regarde où est la petite cabine, m'a dit demander à mes collègues là-haut. Alors je demande à ses collègues en disant par où je dois redescendre. Il me dit c'est quoi votre niveau? Je dis moi je suis débutante, je vais pas me faire une piste noire. Donc il dit ok, il dit vous allez prendre tel et tel chemin et vous redescendez. J'ai pris le télésiège avec confiance. Je suis montée. J'ai eu le droit à un brouillard de la neige, je voyais rien devant moi, j'ai dû me demander qu'on m'aide, etc. Et après, dans la grâce de Dieu, quand je descendais la piste, j'étais seule, le domaine allait fermer, les pistes allaient fermer, et je faisais juste une dernière piste comme ça, et dans la grâce de Dieu, eh bien Dieu, il m'a envoyé une pisteuse, en fait, qui s'occupait des pistes, et elle m'a dirigée, et puis après, j'avais carrément un secouriste à côté de moi, en fait, qui descendait la piste avec moi. Dans mes faiblesses, je me suis pris deux bonnes gamelles devant lui. À un moment donné, j'avais les pieds croisés comme ça, les skis croisés comme une bonne débutante. Je lui ai dit, Lise, arrête de te taper la honte, déchausse un peu, là, mets-toi bien sur les skis. Non, non. Mais on est comme ça, avec Dieu, en fait. Moi, j'ai fait confiance en me disant, je vais au télésiège, ça va pas trop être dur. Et j'aimerais nous dire ce matin que quand on rentre dans les fleuves d'eau vive, c'est pas pour se retrouver comme moi en haut d'un télésiège avec plein de brouillard où tu sais pas où aller, tu sais pas ce qui va se passer, t'es comme ça, tu te dis plante-toi pas, reviens sans avoir cassé quelque chose. Quand je t'amène dans les fleuves d'eau vive, il y a la paix, il y a la consolation, il y a la quiétude, il y a le repos, il y a tout ce qu'il y a de bon pour ton âme, il y a les directives pour ta vie, il y a les directions. Moi, là-haut, je ne savais pas où je devais aller, j'ai dû demander. Mais dans sa grâce, Dieu m'a envoyé comme ça. Et peut-être que ce matin, tu dis, ah bah, mais moi, justement, j'ai fait plus confiance à l'homme, je me suis retrouvée dans des situations de vie, j'ai fait des choix de vie comme ça qui m'ont éloignée des courants d'eau, qui m'ont éloignée de la clarté de Dieu, qui m'ont éloignée de ces eaux vives. Et ce que je vis actuellement, eh ben, c'est vrai, parfois, c'est nos choix, en fait. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Mais il y a des épreuves, finalement, c'est nos choix, c'est nos décisions. Moi, quand j'ai fait le choix de monter dans ce télésiège, c'était mon choix. Je suis montée, j'avais confiance. Eh bien, comme le secouriste qui est venu à côté de moi, comme la pisteuse qui est revenue à côté de moi, ce matin, l'Éternel te dit, toi qui t'es éloigné des fleuves d'eau vive, je t'envoie mon Esprit Saint ce matin et je parle à ton cœur pour te ramener auprès du repos, auprès des sources, pour te ramener dans le repos, pour te ramener dans les fleuves d'eau vive, pour te ramener dans une vie spirituelle, pour te ramener dans la pureté, pour te ramener dans la sainteté. Amen. Peut-être aussi que ce matin, je vous ai dit, je décortique nos pensées. Ce matin, on doit renoncer au manque de confiance, on doit renoncer, à nos pensées sur nous-mêmes, notre regard sur nous-mêmes. Ce matin, le Seigneur te demande de renoncer à ta lassitude, à ta fatigue. Je suis habituée. Dieu, ah ouais, il visite comme ça. Un jour, c'est l'eau calme, un jour, c'est l'eau fort. Un jour, c'est doux, un jour, c'est puissant. Et puis finalement, quand la présence de Dieu est là, tu t'es habituée. Et peut-être même que ce matin, alors que je te parle, ce goût de plus, de vouloir encore plus de Dieu, de dire comme l'apôtre Paul, tout ce que je veux, c'est connaître Christ crucifié, ça te parle même plus, ça te nourrit même pas, t'as même pas envie. Ce goût de plus, là, il est plus dans ton cœur. Ce goût de plus d'aller dans les profondeurs de Dieu, de connaître plus les profondeurs, peut-être que tu l'as perdu. Et la lassitude est peut-être devenue que pour toi une condition normale de vie. Mais j'aimerais te dire que la lassitude et l'habitude, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas dans les fleuves d'eau vive. Si tu peux afficher Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Toi qui es fatigué, toi qui es lassé, toi qui as été habitué à la présence de Dieu, Dieu veut te donner un goût de plus ce matin. Peut-être, et je vais compléter aussi ce qu'Alex avait dit l'autre fois, il parlait de l'orgueil. Peut-être que ton orgueil vient éclipser les fleuves d'eau vive, vient éclipser la présence de Dieu. Au lieu que la lumière soit sur la présence de Dieu, la lumière est sur moi, sur mon œuvre, sur mes titres, sur mes responsabilités, sur qui je suis, sur mes réussites en société, sur ma beauté, sur ma grâce. Dieu est OK avec le fait qu'on réussisse et que ça réussisse dans nos vies. Mais le problème, c'est quand notre cœur va commencer à dévier de trajectoire et que finalement, c'est tout moi, notre moi, et qu'il n'y a plus assez de place pour Dieu. Peut-être aussi que parfois, ça peut arriver où, vous savez, comme Saul et David, la parole de Dieu nous dit que Saul a commencé à regarder David d'un mauvais regard parce que quand ils sont revenus d'un combat, les femmes qui dansaient et chantaient ont dit que David avait battu 10 000 hommes et que Saül en avait battu 1 000. Alors pour Saül qui est roi, d'entendre que quelqu'un puisse battre plus d'hommes, en battre 10 000 plutôt que 1 000, il s'est dit là, Je suis mal barrée, moi, pour mon royaume. Il y en a un qui est fort, jusqu'à maintenant j'utilisais avec succès, mais il commence à me faire de l'ombre. Parce que les femmes sont en train de louer, eh ben, sa capacité, ses forces. Il en a battu 10 000, et ça se chante. Et nous, parfois, quand on vient nous voir, on dit « T'as vu, là, ce matin, comment il ou elle a prêché? T'as vu, là, la parole qui a été donnée? T'as vu, là, quand il a prié? Il y en a un qui a été guéri, on serre les dents. » On dit « Et moi, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'on dira ça de moi? Elle a bien prêché, il a bien prêché, il a prié, il s'est passé ça. » Puis ça fait naître des frustrations. Puis d'un coup, si on ne prend pas garde, la jalousie rentre dans notre cœur. Et alors, on n'arrive pas à se faire de la place. On n'arrive pas à être tous ensemble parce qu'on est frustré de ce que Dieu fait avec l'un, de ce que Dieu fait avec l'autre. Et on a un mauvais regard sur les uns et sur les autres. D'un coup, on est irrité. D'un coup, on se sent dans des positions d'insécurité. On se dit si, et si c'est, il y a une belle louange, si d'un coup l'onction tombe sur un tel dans la louange, ben on espère que ce sera notre tour la prochaine fois. Et toutes ces choses-là, comme ça, eh bien, peuvent et sont de l'orgueil et viennent nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que comme ce qui a été dit ce matin, ce que Dieu fait avec l'un, ce que Dieu fait avec l'autre, ce que Dieu fait avec les prédicateurs, avec les dons qu'il a équipés au milieu de l'Église, avec l'équipe de louanges, c'est pour notre bénéfice. Et nous sommes tous au bénéfice de l'autre. Je suis au bénéfice de qui vous êtes, de ce que Dieu vous a donné comme don, comme qualité. Quand Dieu vous remplit d'eau vive et que vous pouvez, quand je viens auprès de vous, m'abreuver. Et ce matin, j'espère être de qualité pour vous et pour la gloire de Dieu, pour que vous puissiez recevoir les fleuves d'eau vive. Amen. Mais dans la sécurité, dans la paix, dans le « ok, tout va bien », les fleuves d'eau vive se répandent d'une manière ou d'une autre. Amen. Et Dieu sait à quel point nous pouvons être en proie à toutes ces pensées, à tout ce qui vient nous frustrer, à tout ce qui vient nous jalouser, à tout ce qui vient nous mettre en insécurité, à tout ce qui vient te freiner dans la présence de Dieu. Tes faiblesses, et tes faiblesses qui sont même des douleurs physiques, corporelles, tes douleurs, tes psychés. Et le problème, c'est pas que ces pensées passent dans nos têtes, c'est pas que c'est que parfois nous pouvons nous affaiblir. Le problème pour Dieu, c'est quand les pensées et tout cet état de cœur, eh bien, vient se nicher comme des œufs dans un nid, ça vient et ça fait un nid dans notre cœur. Ça, c'est un problème pour Dieu ce matin. Il a besoin que nous puissions arrêter de renoncer à ces fleuves d'eau vive pour toutes ces situations, pour toutes ces pensées, pour tout ce que je viens de vous dire. Et peut-être aussi que ce matin, au-delà de toutes ces pensées qui sont attrayées à l'entendement, tu as abandonné ton premier amour. Peut-être que les œuvres ont pris plus de place que le premier amour. Et Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 4, Dieu nous montre à quel point il n'y a aucune substitution possible. Tu peux faire autant d'œuvres et aussi bien puisses-tu les faire, ton premier amour pour Dieu reste le plus important. Et il dira donc à l'Église, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Honnêtement, les éloges au début de la part de Dieu, c'est magnifique. Il te dit, je sais que tu es là, je sais que tu as persévéré, je sais que tu as souffert pour la cause de mon nom, je sais que tu t'es jamais lassé, je sais que tu as un merveilleux discernement où tu sais même repérer ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est génial comme éloge, c'est génial de recevoir ça comme compliment de la part de Dieu. Mais il y a un mais derrière. Et tu dis, où est ton premier amour? Où est ton premier amour? Et ce matin, peut-être que Dieu te dit, où est ton premier amour? Tu es dans les œuvres, tu n'arrêtes pas. Mais où est ton premier amour? Où sont mes temps d'intimité avec toi? Quand est-ce que tu viens t'abreuver dans les fleuves d'eau vive? Entrer dans ces fleuves d'eau vive nécessite donc de renoncer à être tout le temps focalisé sur nos œuvres, mais nous devons accepter de revenir à notre premier amour. Entrer dans les fleuves d'eau vive sont peut-être aussi pour toi ce matin encore une occasion de dire « Je renonce à toutes les œuvres de la chair ». Galates 5, chapitre 5, versets 19 à 21. « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. » Et toutes choses semblables, et tout ça, eh bien, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dira encore les vaines gloires, se provoquer, se porter en vie. Paul dira, il nous faut crucifier notre chair. Il dira, je suis crucifié avec Christ afin que ce n'est plus moi qui vive, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu galères depuis des années avec des péchés. Peut-être que tu as des addictions. Peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est la drogue, peut-être que c'est la pornographie, peut-être que c'est eh bien la ruse, ça se voit moins. Peut-être que tu es addict au mensonge, tu ne sais pas passer une journée sans mentir, tu ne sais pas passer une journée sans être dans la ruse, sans être dans l'excès de zèle. Romains 6, versets 12 à 14, Paul nous rappelle que nous avons la victoire sur le péché, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Quand Christ, nous avons fêté Pâques, quand Christ est allé sur la croix et Dieu avait dit au serpent en disant « Tu seras écrasé par le talon », eh bien, quand Christ est allé sur la croix, son talon était blessé, mais il a écrasé la tête de Satan. Il l'a écrasé ce matin. Il l'a écrasé avec un corps qui a été cloué sur le bois, mais il l'a écrasé tel que Dieu l'avait dit. Il avait dit, le Fils de l'homme t'écrasera la tête. Et avec son talon blessé, il a écrasé la tête de l'ennemi. Alors ce matin, l'Éternel te dit à nouveau, tu es vainqueur. Tu n'as peut-être pas encore la liberté ce matin, mais tu es vainqueur de ton péché. Amen. Et il nous faut accepter le regard de Dieu sur nos vies. Dieu sonde les reins, Dieu sonde nos cœurs. Et le cœur de l'homme est incurable en lui-même. Alors, dans Jérémie, il parlera et il se présentera comme eh bien, cette source de vie. Il fera le constat auprès du peuple de Dieu. Et ça, c'est ce qui va arriver en conclusion. Donc, c'est Jérémie 2, versets 12 et 13. Mais avant d'arriver à ce verset-là, l'Éternel dira ce qui suit. Il fera le constat suivant, il dira, moi je me rappelle de ton premier amour et Dieu te dit ce matin, moi je sais comment tu m'as aimé, je me souviens de tes premières ardeurs pour moi. Dieu, avant d'arriver au verset 12 et 13, il dira à son peuple, quelle injustice as-tu trouvé en moi pour que tu t'éloignes de moi? Quelle injustice ce matin as-tu trouvé en Dieu pour t'éloigner de lui? Après quoi cours-tu? Il dira à son peuple, après quoi courez-vous? À quoi passes-tu ton temps à courir dans ta vie? Il dira même, ceux qui adorent de faux dieux restent fidèles à leurs faux dieux, et moi qui suis vivant, tu te détournes de moi le Dieu vivant. Regardez les peuples païens. Ils sont fidèles dans leurs rites, ils sont fidèles dans leurs coutumes. Ils adorent toujours leur faux Dieu qui donne aucune consistance, aucune force, aucun pouvoir sur la mort, aucun pouvoir sur le péché. Et nous qui connaissons Dieu, qui nous a donné Christ crucifié à la croix, qui nous donne le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur le péché, des fleuves d'eau vive pour nous raviver, eh bien on se détourne. Alors il va arriver, il dira, vous échangez ma gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Et donc on arrive au verset 12 et 13 et il dira, ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal qu'on me peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce que tu as déjà pu boire dans un verre d'eau fissurée, ou est-ce que tu as déjà pu voir un vase se remplir s'il est fissuré? Eh bien, le Seigneur, et ce n'est pas mon regard, mais c'est le regard de Dieu, il te dit ce matin, quand tu laisses toutes ces pensées t'envahir, lorsque tu laisses le péché te dominer, lorsque tu laisses être accablé comme ça dans ton entendement, eh bien, tu fissures ton cœur. Et alors que des fleuves d'eau vive doivent jaillir dans ton cœur, eh bien, ça se fissure. Et l'eau se met à couler. Et il n'y a plus rien qui jaillit de ton cœur. La vie de Dieu ne jaillit plus parce que ton cœur est fissuré. Il y a des fissures dans ta vie. Il y a des fissures dans notre cœur. Mais ce matin, autant Dieu nous dresse son constat, c'est le regard de l'Éternel en disant « Tu te détournes de moi. Où est ton premier amour? Pourquoi vas-tu là-bas? Pourquoi ne restes-tu pas auprès de moi ?» J'aimerais nous encourager. Dieu a toujours souhaité, et il est comme ça avec le peuple d'Israël, il est quand même avec nous, son peuple. Il nous appelle son peuple, fils et fille de l'Éternel. Il nous dit « Moi, je continue de t'aimer. Moi, je t'invite encore. Du jardin d'Éden jusque dans l'éternité, l'Éternel a toujours désiré être au plus proche de nous, être dans cette relation intime et nous dire « Viens, viens, moi, je veux te connaître. Je veux que tu me connaisses. Je veux que tu prennes de l'assurance en moi. Je veux te laver de tout péché. Amen. » Il dira « Je suis pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Paul nous dira aussi dans la Bible, Christ, que Christ fasse sa demeure dans nos cœurs. Dieu était sous une tente, Dieu était dans la tente d'assignation, Dieu était dans le tabernacle, Dieu est venu au travers de Jésus-Christ, fait homme. Et un jour, nous verrons Dieu à visage découvert. Amen. Apocalypse 21, verset 3, il est dit, Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui et Dieu lui-même sera avec eux. Et je finirai ce matin avec deux paroles que Dieu m'a rappelées sur mon cœur. Et si tu peux en même temps remettre l'image du jet d'eau, la photo du jet d'eau. J'aimerais te dire ce matin que là, les fleuves d'eau vive par la foi, ils sont là pour toi. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons un souverain, sacrificateur qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui connaît nos faiblesses et qui nous aide jour après jour et qui vient auprès de nous pour tous nos besoins. Et alors que tu vois ce jet d'eau, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux ce matin et je vais nous rappeler deux paroles que Dieu a données à l'Église. L'une en décembre 2023. Et Dieu nous dira cela. Toi qui as connu les choses de l'esprit, ne te lasse pas, ne te lasse pas. Connais-tu les profondeurs de mon esprit? Peux-tu les mesurer? Qui peut venir avec un appareil de mesure pour mesurer mes profondeurs? Aucun appareil de mesure d'homme ne peut mesurer mes profondeurs, peuple de Dieu. Aucun homme, aucune femme ne peut le faire, aucun enfant. Alors l'Éternel nous dira cela, viens ma fille, viens mon fils. De quoi as-tu besoin? Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Je te renouvelle, je te fortifie corps, âme et esprit. Moi, je sais ce que je dois faire pour toi ce matin. Je sais ce que je dois purifier. Je sais ce que je dois laver. Je sais ce que je dois circoncire. Mais quel est ton choix, mon peuple, ce matin? Quel est ton choix? Alors, il te dit, viens ma fille, viens mon fils, ne reporte pas. Car tu ne le referas pas plus tard. Et la deuxième parole que Dieu a donnée dans ce sens-là et qui appuie ma prédication ce matin, c'est en novembre 2024, il nous dira, tu dis que tu veux plus de moi, mais tu t'approches de moi avec tes concepts, avec ta manière de penser. Alors tu ne peux entrer pleinement dans mes fleuves d'eau vive. Et ce matin, alors que je vais demander au groupe de louanges de revenir, et en accord avec Alex, je vais faire deux appels. Le premier appel, ça va être par rapport à la première parole. Et Dieu te dit, toi qui connais le Saint-Esprit, toi qui le connais, toi qui l'as connu, approche-toi, approche-toi de moi. Et je vais te laver, et je vais encore te purifier, et je vais encore te circoncire. Et je vais encore te renouveler. Et je vais encore te fortifier. Et avant de passer au second appel, je veux vraiment prendre le temps. Ce matin, toi qui es concerné, toi qui veux plus des fleuves d'eau vive, toi à qui Dieu te dit, ne te lasse pas, ne te lasse pas de ma présence, ne te lasse pas de qui je suis, eh bien, approche-toi. Approche-toi ce matin. Ne regarde pas à gauche et ne regarde pas à droite, mais approche-toi ce matin. Approche-toi de ces fleuves d'eau vive. Est-ce que tu crois ce matin que les fleuves d'eau vive sont là? Est-ce que tu le crois, peuple de Dieu? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as entendu l'invitation de Dieu qui te dit « Ne te lasse pas, viens à moi, je te laverai, je te purifierai. » C'est pour toi maintenant ce matin. C'est pour toi pour te faire entrer dans de nouvelles directives, dans des eaux plus profondes. Avance-toi ce matin.